Alors, hier soir, nous avons parlé notamment de l'épître aux Corinthiens. Vous savez que cette épître est une épître qui n'est pas exemplaire pour nous, même pour notre génération. Et malgré cela, Dieu a montré toute cette fidélité envers, eh bien, ces chrétiens qui vivaient dans le désordre. Et on a souligné que malgré qu'ils avaient reçu tous les dons, il y avait un tel désordre. Il n'avait pas compris que les dons qui sont donnés à son Église est aussi pour nous préparer à son retour. Et il fallait qu'ils apprennent cette leçon. Et ensuite, bien sûr, Paul va écrire cette épître avec une sévérité, mais cela va toucher aussi leur cœur, puisque dans la deuxième épître, ils vont rentrer en eux-mêmes et certainement se repentir. Et on voit bien que la deuxième épître aux Corinthiens est une lettre beaucoup plus, je dirais, pleine d'amour et aussi d'encouragement, et non de reproches forcément. Alors continuons toujours dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, et le chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. On retrouve ici cette notion de tentation, d'épreuve. Ici, c'est tentation, mais ça peut être aussi traduit par épreuve. Parce que c'est vrai que notre vie, elle est faite que de difficultés, d'embûches, de combats. Souvenez-vous, Moïse, bon, je ne reviens pas à ce qui a été dit dans la première soirée, les Corinthiens. Et là, on voit que maintenant, Paul parle ici d'épreuves et qui devaient être aussi difficiles. Alors, il explique que ces épreuves que nous pouvons avoir et qui viennent de Dieu, comme Abraham qui a eu reçu 10 épreuves qui venaient de Dieu, mais ça n'a jamais été une épreuve qui l'a écrasé. Mais ça a été toujours des épreuves qui l'ont élevé. Quand Dieu permet l'épreuve, c'est parce qu'il veut sortir du bien en nous. Il veut nous amener plus loin dans la connaissance de sa personne. Hein, si je reviens à ce que nous avons vu avec Moïse, à la fin de sa vie, avec tout ce qu'il a pu vivre en difficulté, ça, on pourrait dire sa conclusion, c'est Dieu est fidèle. Et l'épreuve qu'il a eue n'a pas été pour lui un moyen et ni une pierre d'achoppement, ni de crier à Dieu, mais bien au contraire, de rendre la gloire à Dieu. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a cette exhortation que si le Seigneur ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, alors quand elle vient de lui, au lieu de prier que le Seigneur ôte l'épreuve, eh bien, prions pour que le Seigneur nous aide à passer l'épreuve. Remarquez, il ne dit pas que s'il nous donne le moyen, qu'il prépare aussi le moyen d'en sortir, c'est pour la supprimer. Mais Paul dit, c'est afin que vous puissiez la supporter. Et Dieu, dans sa fidélité, et aussi longtemps que cette épreuve nous touche, Dieu reste à côté de nous et il est fidèle. Je veux souligner quand même que le verbe ici, sortir, de notre texte, c'est un mot qui signifie bien sûr qu'il y a deux sens de sortir. L'épreuve, c'est aussi pour nous amener à sortir de nos raisonnements, raisonnements humains, pour essayer de comprendre le plan de Dieu pour nos vies. Le mot grec, c'est ekbasis. Il y a le mot ek. Ce petit mot, nous le trouvons aussi dans Ecclesia, que nous traduisons par église. Et ek, c'est hors de. Et le but de Dieu dans son épreuve qu'il permet, c'est de nous sortir de bien de tout raisonnement qui pourrait justement nous enfermer et de ne plus être capable de voir la main de Dieu sur notre vie. Et dans ce cas-là, eh bien, on est des gens qui se plaignent, qui s'arrêtent, qui peut-être même lèvent le poing contre le ciel si nous n'arrivons pas à comprendre cela. Et en effet, le mot sortir, c'est aussi le deuxième partie de ce mot, basis, c'est faire des pas, c'est marcher. Parce que dans l'épreuve que Dieu permet, c'est pas pour nous arrêter, mais c'est au contraire, c'est de nous faire marcher pour aller plus loin. Abraham, à chaque pas qu'il faisait, il y avait l'épreuve permissive de Dieu, et à chaque fois, eh bien, il remportait la victoire et il faisait un deuxième pas. Vous connaissez ce principe de celui qui fait du vélo. Moi, je fais du vélo pour aller travailler. Dès qu'on arrête de pédaler, eh bien, soit on penche à droite ou on penche à gauche. En un mot, on penche du côté qu'on va tomber. Mais si on veut rester, le vélo veut rester droit, il faut pédaler. Il faut toujours pédaler. Eh bien, même dans l'épreuve, Paul est en train de dire, et on pourrait traduire ainsi, c'est que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen pour que vous continuez, que vous puissiez continuer de marcher, même avec l'épreuve, parce que le Seigneur nous accompagne. Alors, il faut quand même, il ne faut pas non plus occulter cette vérité, il y a vraiment des épreuves dans nos vies ou même dans nos assemblées qui nous paraissent au-delà de nos forces et voire même impossibles de surmonter. Il fallait interroger des frères et sœurs qui sont touchés dans leur corps par la maladie, voire même la perte d'un cher. Eh bien, leurs émotions, leurs sentiments devant cela, on serait surpris quand même de ce qu'ils auraient pu penser, ce qui est tout à fait normal. Mais le but de Dieu, c'est justement que nous continuions de marcher. Mais Dieu nous assure qu'aucune de ces épreuves ne dépasse ce que nous pouvons supporter. C'est dur, mais quand nous marchons avec lui, quand nous le laissons travailler en nous, alors à un moment donné, on sent que le Seigneur fait sa part, il porte sa part. Le joug du Seigneur, s'il est léger, c'est parce que j'ai l'autorité sur moi, mais il porte aussi parce que moi je ne peux pas porter. Il porte le côté le plus lourd, si je puis dire. Et ensemble, nous marchons. Et il n'y a pas une qui soit au-dessus de ma force humaine. Et donc, Dieu sait bien de quoi nous sommes formés. Et il se souvient que nous sommes poussière. C'est ce que nous dit le psaume 103 et verset 14. Et l'expression « poussière » nous fait penser à notre fragilité. Nous sommes qu'un souffle. On est comme l'air, une fleur, ça sèche, et puis un coup de vent, ça disparaît. On peut être croyant ou non croyant, mais ça ne change pas que nous sommes faits de la poussière. Nous avons notre fragilité. C'est pourquoi des fois nous faiblissons, parfois nous avons nos manquements, notre incrédulité, mais Dieu sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière. Et là j'insiste, et l'Écriture insiste sur cette parole, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Il ne permettra pas. Et ça, il faut s'en souvenir. Quels que soient les moments difficiles que tu passes, peut-être que ce soir, ça fait X temps que ça dure, Dieu ne permettra pas ta chute à cause de l'épreuve. Mais avec l'épreuve, il a déjà le moyen pour t'aider à continuer de marcher. Jésus a promis aussi que le séjour des morts ne prévaudront rien contre l'Église. Il n'a jamais dit qu'une fois que j'ai créé l'Église, elle passera ce monde tranquille, sur une route pavée de pétales de roses, loin de là. La route, il y a les cailloux, il y a des pièges, il y a les épines de la rose, et on marche dessus. Mais malgré l'Église persécutée, elle est chahutée, mais elle n'est pas vaincue. Parce que le Seigneur reste à la tête de son Église. Il est celui qui l'a bâti, qui la porte. Et qu'on le veuille ou non, combien même on voit que le monde est en train de serrer l'étau contre tout ce qui touche la personne de Dieu ou de Christ. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon Église et le séjour des morts ne prévaudront rien contre elle. Et d'ailleurs, quand Jésus reviendra, il enlèvera son Église, l'Église ira à sa rencontre, ce qui montre bien que jusqu'à son retour, l'Église sera toujours sur terre. Il veille, il la garde. Donc le chemin est parfois très difficile. Nous ne voyons pas toujours comment nous serons délivrés, mais il semble même qu'il y aurait sans issue possible devant nous, mais Dieu est fidèle. Et si nous laissons le Saint-Esprit marqué au fer rouge cette parole, Dieu est fidèle. Alors lorsque nous serons chahutés, quelle que soit l'épreuve, alors comme Moïse, nous verrons aussi comme pour les Corinthiens, même Paul, si on faisait sa vie, ils étaient capables de dire Dieu est fidèle, quoi qu'il arrive. Alors si Dieu envoie l'épreuve, il prépare en même temps le secours et l'entière délivrance. Et donc quand on réalise cela, qu'on saisit par la foi cette parole inspirée, alors cela encourage notre foi de continuer notre route avec le Seigneur. Une deuxième lecture dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 23 et verset 24, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Dieu fait la plus grosse part, il fait l'impossible dans notre vie. Nous, ce que nous devons faire, c'est ce qui est possible. Veillons et prions. Gardons le cap. Maintenons notre foi sur ce Dieu qui ne fera jamais défaut. Et ce Dieu de paix, il est dit, il vous sanctifie lui-même. Il fait un travail en nous. Parce qu'il veut que nous soyons irrépréhensibles dans le but que Jésus vient bientôt pour enlever cette Église qui s'est laissée travailler par le Saint-Esprit. Et il veut cette Église fidèle, non pas l'Église apostate, rebelle, mais une Église fidèle. Alors ici, irrépréhensible, je suis conscient que quand Jésus reviendra, nous n'aurons jamais atteint la perfection. Mais dans tous les cas, à partir de maintenant, depuis notre conversion jusqu'à maintenant et demain, souvenons-nous que Dieu nous sanctifie. Il nous amène encore plus loin. Et s'il permet l'épreuve, c'est parce que nous sommes précieux à ses yeux. Et l'épreuve, c'est comme on jette l'or dans le feu, on l'éprouve pour que toutes les scories de ce métaux, eh bien, puissent sortir. On évacue tout ce qui n'est pas bon et on garde ce qu'il y a de précieux. Eh bien, lorsque nous paraîtrons, nous en avons abordé hier soir, devant le tribunal de Christ, eh bien, l'épreuve qui a été, eh bien, le moyen de nous presser ici-bas, eh bien, ici-bas, nous sortons toutes les scories de notre vie, tout ce qui n'est pas encore à la gloire de Dieu, et quand nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, eh bien, un travail aura déjà été fait ici-bas. Et puis le reste se fera parce que nous traverserons un feu au tribunal de Christ qui va consumer eh bien, tout ce qui a été de la chair, de l'esprit de l'homme, eh bien, sera consumé et tout ce qui restera sera été l'œuvre de Dieu. Et ainsi nous pourrons entrer dans le royaume de Dieu saint et irrépréhensible. Parce que dans le royaume de Dieu, rien d'impur et rien de souillé ne pourra entrer. Alors Dieu veut être glorifié dans ses disciples, dans les croyants. Ainsi, malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous pouvons manifester de bon ou de moins bon, eh bien, Dieu fera le travail en nous. Il le fera. Alors si nous sommes parfois infidèles, et j'oserais dire souvent infidèles, eh bien celui qui nous appelle, lui, il est fidèle, il ne change pas. Et parfois, l'épreuve, c'est aussi pour nous ramener dans une prise de conscience que nous sommes poussière et que nous avons besoin de sa grâce. Alors à lui, toute la gloire et cette fidélité, il la manifestera jusqu'au bout et dans la sanctification pratique qu'il accomplira en ceux à qui il appartient. Alors on peut aussi, avec le prophète, pour terminer, le prophète Habacuc dira « Le juste vivra » par la foi, qui peut être aussi traduit par le juste vivra par sa fidélité, et non par la nôtre, parce que bon, on sait très bien que nous ne pouvons pas, et Dieu ne peut pas compter sur notre fidélité, mais c'est à nous en tant que chrétiens croyants de vivre et de compter sur sa fidélité, et tout ce qu'il a dit, il l'accomplira. Amen.